Bonjour, ici Claude, et je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur les messagers de lumière. Alors je voudrais vous souhaiter la bienvenue, je voudrais vous remercier très sincèrement d'être là, parce que c'est un cours important, c'est une conférence vraiment fondamentale à mes yeux. Et elle va répondre, elle va essayer de répondre à vos questions, elle va essayer de vous donner aussi une meilleure vision sur qui vous êtes, et sur quel est votre rôle. Quelle est votre mission? Pourquoi êtes-vous ici? Donc j'aimerais vous expliquer tout ça. Et mon espoir, c'est vraiment que cette conférence soit pour vous une inspiration, qu'elle vous aide déjà à vous sentir mieux dans votre vie actuelle, que vous compreniez certaines choses que vous ressentez peut-être ou certaines questions que vous vous posez, et enfin qu'elle soit une source de force, une source d'accomplissement, de réalisation, quelque chose qui vous aide à accomplir votre mission, à réaliser la raison pour laquelle vous êtes ici, dans cette incarnation, à cet instant précis. Alors pourquoi ce cours? Parce que je crois que vous êtes un messager de lumière. Si vous participez à cette conférence, vous êtes un messager de lumière. Et ça, même si vous ne vous l'avouez pas, ou même si vous avez juste cette idée en tête, ben oui, peut-être, je ne sais pas, je me pose la question. Pour moi, vous êtes un messager de lumière, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je crois aussi que vivre dans l'ignorance, eh bien c'est vivre dans la souffrance. Je crois que beaucoup de personnes souffrent parce que elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ou elles restent fixées sur, on va dire, le quotidien, un peu le nez dans le guidon, et elles ne voient pas le plan global. Elles n'ont pas la perspective globale. C'est un peu comme quand on est dans une ville, dans sa voiture, on est dans les embouteillages, et on peut râler et pester, et en fait, quand on prend de la hauteur, quand on voit ça vu d'un hélicoptère, eh bien on voit d'un seul coup toute l'organisation de la ville, tout le plan de la ville, les parcs, la zone industrielle, la zone commerciale, les quartiers résidentiels. On voit tout ça, et on comprend la logique d'ensemble. Et ce qu'on vit à l'instant présent, dans notre petite voiture, dans notre petit embouteillage, eh bien, prend un sens totalement différent quand on le ramène au flux de la vie, au fonctionnement de la vie dans cette vie. Eh bien, je crois que c'est pareil pour nos incarnations, c'est pareil pour nos vies. Et donc, j'aimerais vous expliquer comment se passent les choses d'un point de vue global. Et j'espère que ça vous permettra de faire sens de ce que vous vivez, et ça vous permettra de transcender peut-être certaines souffrances ou certaines difficultés que vous ressentez. Puis, je crois aussi que le temps est venu. Alors vous allez me dire, le temps est venu de quoi? Eh bien, c'est simple. Le temps est venu de votre éveil. Je crois que le temps des initiations, des apprentissages, tout ce temps de réserve est révolu. Je crois qu'il est maintenant temps d'agir. Et je crois que vous pouvez apporter beaucoup plus à ce monde, un monde qui en a énormément, énormément besoin. Et puis finalement, je crois que nous sommes des voyageurs de lumière, des explorateurs de lumière. Et nous sommes à la recherche de plus de lumière. Et l'objectif de cette conférence, eh bien, c'est d'en partager avec vous et qu'on en partage ensemble. Alors l'objectif de ce cours, plusieurs, tout d'abord c'est vous parler des messagers de lumière, vous aider à prendre conscience de qui vous êtes véritablement, vous aider à comprendre votre appel, ce pourquoi vous êtes là, et puis peut-être vous inspirer dans l'accomplissement de votre mission, dans l'accomplissement de la raison de votre présence ici, et vous verrez que ça vous apportera une extraordinaire plénitude. Donc c'est ça que j'aimerais faire pour vous et avec vous pendant cette conférence. Alors, ce qu'on va voir concrètement, c'est la nature profonde de l'univers. Je vous expliquerai rapidement les principes de l'énergie, du côté obscur, de la lumière, comment fonctionne l'univers. Je vous expliquerai ensuite qui sont les messagers de lumière. Qui sont-ils? Que font-ils? On verra ensuite si vous êtes un messager de lumière. C'est une question importante à se poser. On verra ensuite quels sont vos dons et vos talents particuliers. Parce que qui dit une mission particulière, eh bien, dit des pouvoirs particuliers, des dons, des capacités. Je vous expliquerai ensuite comment vous pouvez jouer pleinement votre rôle et accomplir votre mission. Et puis finalement, je conclurai, je donnerai quelques mots qui me paraissent importants et puis je vous parlerai aussi de mon chemin personnel. Ça vous intéressera sans doute de voir un peu comment je vois les choses dans mon cas particulier. Alors un petit avertissement, déjà je ne cherche pas à me positionner en gourou, d'accord, vous savez que c'est pas mon style. Tout ce que je cherche, c'est à partager ce que je sais, ce que je crois, ce que je comprends avec vraiment un esprit de service. et je veux contribuer ainsi à votre évolution individuelle et puis à notre évolution collective. Évidemment, dans ce qui suit, je ne donne aucun conseil d'ordre médical, thérapeutique, financier et autres. Si vous souffrez sur le plan physique ou psychologique, ce qui peut arriver, et je vais vous expliquer pourquoi, je vous engage bien évidemment à consulter un professionnel. Alors, premier point, quelle est la nature profonde de l'univers? Déjà, tout est énergie. Vous êtes constitué d'énergie. Même si, effectivement, cette énergie prend des formes solides, comme votre main, la porte, la table, les chaises, votre ordinateur, tout ça, eh bien, c'est de l'énergie. De l'énergie, peut-être congelée, de l'énergie qui vibre doucement à un niveau vibratoire faible, mais c'est de l'énergie. Et donc, il y a un continuum entre l'énergie dense qui constitue ce qui nous entoure, et puis les énergies de vibration de plus en plus élevées, infinies, des plans supérieurs et de la source. Et l'univers entier est énergie. C'est le langage commun. L'univers, si vous voulez, c'est un peu comme une grande mer avec des vagues comme ça qui ondulent, des rayons de lumière, une musique, une symphonie. Donc chacun le dit avec ses mots, mais c'est cette énergie en mouvement. L'énergie, initialement, provient de la source. Cette énergie a une source unique, un peu comme la lumière du soleil qui irradie dans l'espace et qui a différents effets suivant là où elle tombe, si elle tombe dans la terre, sur la terre, dans l'espace et autres. Eh bien, cette lumière provient du soleil et d'un seul point. Eh bien, c'est pareil pour l'énergie de l'univers, elle provient d'un seul point qui est la source. Et cette source, en fait, elle n'est faite que d'amour inconditionnel. Alors, j'insiste sur inconditionnel et je crois que c'est... Amour est un mot qui aussi... difficile à comprendre parce que souvent on utilise le mot aimer pour des choses qui vont qui parlent du chocolat, de notre chien, de nos enfants, du dernier film qu'on a vu. Donc c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais amour inconditionnel, c'est vraiment une acceptation totale, pleine et entière de ce qui est. C'est une absence totale de jugement. C'est une force extraordinaire. C'est un mouvement un peu comme le vent ou la mer, eh bien va tout absorber, tout porter, tout englober, parce qu'il n'y a pas de rejet, il y a une acceptation totale de l'ensemble des gouttes d'eau qui constituent cette mer. Donc ça, c'est important à retenir. Tout effet d'énergie, quelque part, cette énergie à l'état pur, eh bien, c'est l'amour inconditionnel. Aussi, la source est intelligente. Alors, c'est difficile de définir l'intelligence pour quelque chose qui n'est pas humain, parce que c'est une notion qui est délicate, qui est très relative. Quand on pense à l'intelligence, on pense au QI, à notre capacité à faire peut-être des opérations mathématiques complexes, à retenir certaines choses. On sait aussi qu'il y a différentes formes d'intelligence. Mais la notion d'intelligence se définit beaucoup par rapport à l'entité dont on parle. Si par exemple vous voyez une fourmi, on a du mal à comprendre son intelligence, mais elle aussi aurait beaucoup de mal à comprendre la nôtre. Si vous courez dans la forêt, vous êtes en retard, je sais pas quoi, un rendez-vous, que vous marchez sur une fourmilière, les fourmis qui vont sortir se diront « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pourquoi est-ce qu'il court ?» La notion de rendez-vous, peut-être de rien que de maison, de banque, de voiture, de résolution d'équations complexes, est quelque chose qui les dépasse. Et pourtant, ce sont des animaux qui sont sur Terre depuis des millions et des millions d'années, et qui ont construit des civilisations impressionnantes, magnifiques, donc on ne pourrait pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes. De même, les cellules de notre corps ont des formes d'intelligence, elles peuvent reconnaître par exemple certains virus et les détruire alors qu'elles vont laisser d'autres cellules. Donc il y a vraiment une intelligence, mais cette intelligence, il est très difficile pour nous de la comprendre ou de la saisir sans faire des analogies avec notre intelligence humaine, le fonctionnement de notre cerveau organique. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde les cellules, quand on regarde les êtres vivants, donc l'homme bien entendu, mais pas que, quand on regarde les planètes, quand on regarde les systèmes planétaires, eh bien, il y a un continuum de l'intelligence et de la conscience, un peu comme des poupées russes. Alors, ça peut paraître surprenant quand je dis que les planètes ont une forme d'intelligence et de conscience, mais si vous regardez l'organisation des écosystèmes, quand vous regardez comment fonctionne une forêt, avec finalement chaque chose à sa place, les arbres qui grandissent, les feuilles qui tombent, les fruits qui viennent nourrir les animaux, les herbivores qui nourrissent les carnivores, quand tout ça meurt, ça retourne à la terre qui vient renourrir les arbres. Donc il y a un cycle extraordinaire et une organisation qui est une organisation d'une intelligence magnifique. Si on voulait reconstruire pièce par pièce un écosystème, eh bien ce serait extrêmement, extrêmement compliqué. Et là, avec des règles de fonctionnement, avec des harmonies dans l'énergie et dans la façon dont cette énergie se met en place, eh bien il y a une forme d'intelligence. Et c'est la même chose pour le système planétaire qui fonctionne d'une façon mécanique, d'une beauté splendide. Donc il y a un continuum de l'intelligence et de la conscience, depuis les cellules microscopiques, voire même les atomes et l'énergie pure, jusqu'à voilà, les êtres vivants, les planètes, les systèmes planétaires et au-delà. Donc il y a un continuum de l'intelligence, un peu comme le flux de la mer, le flux du vent, qui relie tous ces éléments-là et les baigne dans une seule mer d'énergie, dans une seule mer d'intelligence et d'amour inconditionnel et de lumière. Alors, les attributs de la source, c'est qu'elle est être et création. C'est un peu ce qu'on peut voir dans différents textes sacrés, qui est je suis celui qui est, donc déjà l'affirmation de l'existence indépendamment de tout, existence qui n'est pas relative, qui n'est pas duale, mais qui est absolue, mais aussi celui qui est et en même temps la source de la création. C'est-à-dire qu'il y a le côté, pour simplifier, intérieur et extérieur, être et non-être, ou être et altérité. Donc je suis celui qui est, et en même temps je suis celui qui crée. Et c'est un flux de la vie qui baigne toute chose. C'est-à-dire que cet être et cette création, eh bien, quelque part, Dieu est partout, l'univers est partout, chacun d'entre nous fait partie de Dieu, et chacun de nous participe de cette création. C'est le flux de la vie. Si vous lisez les lettres du Christ, eh bien, c'est ça l'un des enseignements de Jésus, qui dit, mais je suis venu apprendre aux hommes à vivre dans le Père, donc en fait en alignement avec cette énergie de la vie, avec cette énergie de la création, ce flux invisible, magique, qui donne son souffle à tout ce qui est, à tout ce qui existe. Et un exemple que je trouve extraordinaire, c'est qu'après l'accident de Tchernobyl, bien évidemment, la zone était totalement irradiée, impropre à la vie. Eh bien, quelques années après, une vingtaine d'années après, eh bien, l'écosystème recommence à fonctionner. Et on trouve des animaux qui sont capables de vivre dans cet environnement, et même des races dont on ne sait même pas d'où elles peuvent venir. On voit donc cette vie qui reprend ses droits et qui se remet à fonctionner alors même que la zone a vécu une catastrophe extraordinaire. Donc il y a un flux de vie, un flux de création qui baigne tout et qui prend toutes les opportunités pour se développer. Et nous, c'est ça qui est extraordinaire en tant qu'être humain, c'est que nous disposons de ces deux attributs. Nous sommes fondamentalement, indépendamment de tout, indépendamment de toute référence, de tout relativisme, de toute dualité, nous sommes fondamentalement, et en même temps nous créons. Nous sommes co-créateurs de l'expérience de l'univers. Donc comme la source, comme Dieu, comme l'univers, nous sommes et nous créons. Autre point, c'est que tout est connecté. Tout est connecté, tout fonctionne ensemble. Tout est lié à la source, et donc tout est connecté entre soi. C'est exactement comme Internet, où en fait les ordinateurs sont tous connectés à on va dire, un peu comme des colonnes vertébrales ou des ordinateurs principaux qui permettent de diffuser l'information. Et chaque ordinateur, en fait, étant connecté à ce réseau central, eh bien, chaque ordinateur est connecté aux autres. Et donc ça veut dire que chaque influence modifie l'énergie globale et donc ce qui existe autour de nous. C'est un peu comme dans certains mythes où on dit que la réalité finalement est une toile et que chacun d'entre nous met un peu son poids sur la toile et que ça déforme la toile. Eh bien c'est exactement ça qui se passe. Et donc ça veut dire que ce que nous faisons au niveau individuel, ça influence le collectif. Et ça, on a pu le montrer, cette existence de l'influence collective, en fait, en mesurant la distribution aléatoire d'ordinateurs qu'on a mis en place, donc ils font au hasard 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Et en fait, quand il y a des événements importants, par exemple la mort de Lady Di, ou de grands tremblements de terre, de grandes catastrophes naturelles, eh bien on voit que la distribution, c'est-à-dire le nombre de fois où le 1 sort, par exemple, eh bien est significativement modifiée. Donc ça veut dire que ces ordinateurs, qui finalement sont baignent dans la conscience globale aussi, eh bien ce flux d'énergie, ce changement dans notre conscience globale humaine, eh bien vient influer sur des phénomènes microscopiques, et influe donc sur la perspective du hasard vu par ces ordinateurs. Donc il y a une vraie réalité derrière dans l'existence de la conscience collective et dans l'influence que nous pouvons avoir individuellement et collectivement dessus. Et en tant qu'être humain, et ça c'est important de le réaliser, eh bien nous sommes comme le cerveau, comme le système nerveux de Gaïa, un peu comme son cerveau, et nous pouvons influencer son niveau d'énergie, exactement comme le lien corps-esprit. Quand vous regardez le fonctionnement de la planète, eh bien, ça ressemble beaucoup à un corps humain quelque part. On a des voitures, des bateaux qui transportent des marchandises, un peu comme les nutriments dans notre corps vont passer à travers nos veines. Et d'une certaine façon, les êtres humains, avec leur capacité d'échanger de l'information, sont le système nerveux. Et c'est ça qui permet quelque part de faire évoluer cette collectivité humaine, la technologie, les échanges, le commerce. Et l'invention d'Internet, c'est un peu comme si on avait augmenté la capacité de traitement du cerveau de Gaïa, de la Terre. Un peu comme si on était passé d'un vieux PC 386 au plus récent, la machine la plus récente. Et en fait, notre état d'esprit influence beaucoup sur l'état d'esprit de la Terre et inversement. Un peu comme notre corps, on sait que quand nous sommes motivés, en forme, eh bien nos cellules fonctionnent bien, et quand nous sommes déprimés, eh bien on peut avoir des problèmes de santé. Eh bien c'est pareil pour Gaïa. Donc si chacun d'entre nous travaille la lumière, travaille ce côté positif de la vie, eh bien ça a une influence sur les autres consciences et aussi sur Gaïa en tant qu'être vivant. Donc ça, c'est très important de réaliser, c'est tout est connecté, parce que finalement, tout part de là, en fait. Alors, dans tout ça, il y a un élément dont je parle, mais je voudrais en parler un petit peu plus, c'est la lumière. En fait, la lumière, c'est simplement une forme d'énergie. Et elle est vue comme positive par l'être humain. On lui associe des capacités d'amour, de guérison, de joie, de créativité, d'accomplissement de soi. Donc c'est vraiment quelque chose de bienfaisant, un peu comme la lumière du soleil qui fait pousser les plantes. Et toute émission de lumière, des pensées d'amour, de paix, d'harmonie, eh bien ça crée des échos autour de nous, comme un caillou qu'on jette dans un lac. Donc quand on va émettre de la lumière, eh bien, comme nous sommes tous connectés, à la fois entre nous et connectés à la source, eh bien nous créons un effet d'entraînement. L'exemple qu'on peut donner, c'est Gandhi, avec la non-violence, ou Martin Luther King, qui finalement, par son exemple, arrive à entraîner tout un tas d'autres gens qui eux-mêmes vont pratiquer les valeurs de la non-violence, de l'amour, du pardon, et où finalement ça arrive à des transformations extraordinaires, que ce soit à la fin de l'apartheid aux États-Unis ou que ce soit les changements politiques extrêmement importants en Inde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe, dont on constate les résultats et qu'on va pratiquer à notre niveau individuel tous les jours. Parce qu'on peut focaliser cette énergie positive, eh bien, pour faire le bien autour de nous. Alors, qui dit lumière dit aussi obscurité, mais cet obscur qu'on voit souvent négativement est aussi important. Parce que, effectivement, quand on parle d'obscurité, on pense à des émotions négatives, un peu comme l'opposé de la lumière. On pense à la haine, on pense à la peur, l'intolérance, l'avidité, la jalousie, la dépression. On pense à toutes ces émotions négatives. Et c'est vrai qu'il y a de ça, mais la source est amour inconditionnel. Elle est sans jugement. Elle accepte aussi bien la lumière que l'obscur. De même que vous ne pouvez pas prendre une pièce et ne prendre que le côté pile et rejeter le côté face. Quelle que soit la façon dont vous la coupez, vous pouvez la couper aussi finement que vous voulez, elle aura toujours deux faces. Et c'est la nature de notre existence matérielle qui est que c'est un monde de dualité. Et donc, pour la source, tout est énergie, et cette énergie a différentes vibrations, différentes fréquences qui font partie de l'harmonie du monde, qui font partie de cette grande symphonie que nous jouons. Et donc l'obscur, c'est finalement une autre face, une réaction, cette dualité nécessaire. Et il est aussi important que la lumière, parce que sans obscurité, on ne peut pas avoir de lumière, et inversement. Et cette énergie obscure, elle a une véritable utilité. Elle est vraiment importante, parce que elle peut nous indiquer que nous sommes perdus. Finalement, la souffrance, c'est une boussole, c'est un réveil. Quand vous mettez les doigts dans la prise et que vous vous faites mal, eh bien finalement, cette douleur, effectivement, c'est pas agréable sur le coup, mais ça vous permet de comprendre qu'il y a de l'électricité et qu'elle n'est pas bonne pour vous. Donc finalement, c'est un signal, ça vous apprend qu'il faut mieux pas mettre les doigts dans la prise, en tout cas les enlever tout de suite. Donc la souffrance, finalement, la douleur, c'est un signal de réaction vis-à-vis du monde, et c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre et d'évoluer. Ça nous permet aussi de prendre conscience d'une dimension supérieure de la vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant, qui est que il y a finalement une grande similitude entre ce que j'appellerais la nuit obscure de l'âme, donc ces phénomènes de passage, de transition, de transformation, de dépression profonde parfois, et l'amour inconditionnel. Alors ça peut paraître surprenant, parce que on imagine l'amour inconditionnel comme étant quelque chose de forcément très très positif, et la nuit obscure de l'âme comme quelque chose de très négatif, sauf que n'oubliez pas que la source est amour inconditionnel. Et j'insiste bien sur inconditionnel. Donc il y a cet amour du beau comme du laid, de la lumière comme de l'obscur, du bonheur comme du malheur, il n'y a pas de jugement. Et finalement, quand on est dans la nuit obscure de l'âme, quand finalement rien n'a de sens, nous n'avons de préférence pour rien, eh bien finalement ce n'est pas si différent de l'amour inconditionnel qui n'a de préférence pour rien. Donc ça nous permet, à notre échelle humaine, de réaliser la dimension spirituelle, qu'il y a autre chose au-delà des formes, qu'il y a autre chose au-delà de nos désirs et préférences perpétuelles. Ça nous permet de nous placer dans ce domaine de non-dualité et de non-jugement, ce domaine absolu. Et quelque part, c'est parfois, ça peut être une expérience extrêmement difficile à vivre, mais c'est une expérience qui a une profondeur spirituelle absolument extraordinaire. Ça peut aussi nous inciter à la retraite, à prendre soin de nous, à nous retirer un peu du monde, parce qu'on se dit, voilà, là, je n'arrive plus à faire face. Donc c'est un signal pour nous protéger. Ça peut nous aider à nous motiver. Quand on touche le fond, eh ben, on donne un coup de pied, on remonte. Donc il y a ce côté de dire, ben voilà, je suis face à l'obscur, face aux difficultés, face aux souffrances, eh bien j'en ai eu assez, et là je vais remonter, et on repart. Et on repart parfois plus vite et plus haut. Ça peut nous aider à mieux comprendre, pour mieux servir. Parce que finalement, on peut parler tant qu'on veut d'aider les autres, on peut parler tant qu'on veut d'apporter du positif, mais si on ne connaît pas véritablement les souffrances et les difficultés, eh bien c'est difficile d'être pertinent, c'est difficile d'apporter une aide véritable. Il y a une expression que j'aime bien, qui est aller dans les océans de souffrance pour aider ceux qui se noient. Parce que si vous restez à l'extérieur toujours, oui, moi de toute façon je suis dans la lumière, rien ne me touche, eh bien comment allez-vous pouvoir tendre la main à ceux qui sont là et qui se débattent? Si vous êtes tout là-haut, bien finalement vous ne pouvez pas vraiment comprendre, vous ne pouvez pas vraiment aider, donner la main à ceux qui se débattent en dessous. Donc il est important parfois d'aller dans ces océans de souffrance et de passer par ces expériences. Je crois qu'il y a aussi un élément important dans le fait d'absorber et de transmuter l'énergie négative. Un peu comme peut le faire un paratonnerre, et ça c'est quelque part l'exemple extrême, c'est Jésus. Jésus qui dit, voilà, je prends tous les péchés et je les transforme, je les pardonne. Et il y a une transcendance qui se passe à travers la passion et à travers la crucifixion de Jésus, la rémission des péchés du monde. Et je crois qu'il y a ce côté important aussi de dire, finalement la présence de l'énergie négative, ça permet de pratiquer cette rédemption, cette transmutation. C'est un exercice dans le bouddhisme qui s'appelle Tonglen, qui consiste en fait à absorber du négatif et à sortir du positif. Donc ce qui est contre-intuitif a priori, puisque généralement on a plutôt tendance à vouloir inspirer du négatif et à pousser aspirer du positif et à pousser du négatif en dehors de nous. Mais là c'est vraiment cette notion d'amour inconditionnel et d'acceptation, et de dire, ben oui, j'ai aussi un rôle dans le fait de transmuter et de transcender la souffrance et de transformer l'obscurité en lumière. Et puis je crois que l'énergie obscure, c'est aussi une des raisons de l'intérêt de nos incarnations, toutes nos souffrances, nos difficultés et autres, eh bien ça, ça sert à accélérer la progression de notre âme. Donc l'énergie obscure a une véritable utilité. L'essentiel, au final, entre obscur et lumière, finalement, où est la différence? Comment est-ce qu'on peut la faire? Eh bien, c'est dans l'intention. La clé, c'est vraiment nos intentions. C'est l'intention qui crée un impact dans l'énergie, dans la conscience, et beaucoup plus finalement que les implications, que la matière elle-même. C'est vraiment cette intention qui donne cette tonalité à la lumière ou à l'obscur. C'est un peu comme si vous aviez un projecteur d'une lumière neutre finalement, et dedans vous allez mettre un filtre. Vous allez mettre un filtre rouge, vert, bleu, et suivant votre filtre, eh bien la lumière sera différente. Et finalement, c'est cette intention qui colore l'énergie en elle-même. Et le mal dans tout ça, je crois que c'est pas forcément de l'énergie obscure. Je crois que c'est l'énergie obscure qui est utilisée dans une intention particulière, avec une véritable intention de nuire, de détruire, de faire le mal, d'emprisonner. Donc l'énergie obscure n'est pas négative ou mauvaise en elle-même. Comme toute puissance, comme tout pouvoir, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Donc le mal, c'est vraiment cette énergie obscure utilisée dans une intention particulière. Et c'est pour ça que la seule façon de créer un véritable changement positif dans votre vie, eh bien, c'est de vous assurer d'avoir les intentions qui soient les plus pures. C'est de travailler sur vos intentions avant toute action. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de prendre conscience de qui vous êtes et du rôle que vous pouvez jouer aujourd'hui dans le monde. Parce que le véritable travail, eh bien, il se fait à l'intérieur. Alors aujourd'hui, il y a un problème par contre avec l'énergie obscure qui est que, pas dans l'énergie en elle-même, mais dans son excès actuel sur la Terre. Il y a trop d'énergie obscure autour de la Terre. Parce que aujourd'hui, on vit plein de difficultés, de crises, mais en fait, la Terre est un aimant pour les vibrations basses, parce que finalement, c'est une planète qui est très matérielle, je pense surtout dans nos cultures en ce moment, et ça depuis peut-être 100-200 ans, il y a quand même beaucoup de développement du matérialisme, alors l'amélioration de certains, on va dire, de conditions de vie, l'amélioration de beaucoup de choses, mais en même temps, un développement des valeurs matérielles au détriment des valeurs spirituelles. Et donc ça a tendance à attirer un certain nombre d'âmes et d'entités qui ont des vibrations plutôt basses, qui finalement n'arrivent pas à s'arracher aux satisfactions matérielles et qui font tout pour essayer de reprendre un peu leur dose de satisfaction de ce genre. Et en fait, leur influence augmente avec l'accroissement de la population. Donc plus finalement la population de la Terre s'accroît, et plus on a cet effet d'aimant, ce cercle vicieux de vibrations basses et d'entités basses qui se réincarnent, et tout ça attirant encore plus d'entités basses, etc., etc. Donc ça peut faire un cercle vicieux, un cercle potentiellement extrêmement destructeur. Parce que tout ça, ça crée une énergie de peur, et bien cette énergie, elle s'oppose à l'amour, elle s'oppose à la guidance de la source, elle s'oppose à l'alignement avec le flux de la vie, et ça crée en fait de nombreuses intentions sur notre planète. Et ces intentions, eh bien, ne sont pas alignées, on va dire, avec le développement naturel, harmonieux, vers la lumière de notre planète. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, parce que finalement, pour la source, tout est amour inconditionnel. Par contre, si on souhaite, au niveau individuel ou collectif, aller vers plus de lumière, plus d'harmonie, plus de fraternité, plus de liberté, comme nous le disons, comme on le dit dans nos livres, nos déclarations politiques et autres, si c'est vraiment ça qu'on veut, eh bien, aujourd'hui, il y a un obstacle extraordinaire qui est cette attraction de plus en plus importante, de plus en plus grave, d'entités et d'énergie basse qui nous empêche et qui nous bloque dans notre développement. Et donc c'est pour ça que l'harmonie globale de la source, avec ses effets d'action et de réaction, eh bien elle a conduit à un rééquilibrage. Et ce rééquilibrage, il passe par la multiplication des messagers de lumière. Alors j'ai expliqué justement qui sont les messagers de lumière. Alors en fait, on leur donne beaucoup de noms. Messagers de lumière, ça c'est l'expression que j'utilise, mais on peut aussi dire travailleurs de lumière, porteurs de lumière, bodhisattva, cellules blanches, personnes spirituelles, guerriers de lumière, même chevaliers Jedi. Donc quelque part, on les appelle un peu comme on veut, ça dépend beaucoup des cultures, ça dépend des champs de référence, mais par contre, on parle à chaque fois de la même chose. Des gens qui sont spirituels, des gens qui jouent un rôle dans l'évolution de la conscience de la planète. Et ça, c'est important, c'est l'intérêt pour l'évolution de Gaïa, pour les grands sujets, je dirais les sujets un peu stratégiques dans l'évolution de Gaïa, plutôt que pour son fonctionnement. Et en fait, quand vous regardez, la plupart des gens dans la vie fonctionnent par rapport à, je sais pas, leur priorité immédiate de survie, c'est-à-dire peut-être leur travail, leur famille, leurs amis, leurs finances. Mais en fait, peu s'intéressent véritablement au grand sujet d'évolution de la conscience et de, finalement, quand on prend un peu de distance, eh bien, comment est-ce que Gaïa va évoluer? Comment est-ce que Gaïa est en train d'évoluer? Quel monde est-ce que nous préparons? Quel monde est-ce que nous sommes en train de construire pour nos enfants, les enfants qui viendront? Comment s'exprime notre spiritualité dans tout ça? Etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment cette préoccupation, cette intention pour l'évolution de Gaïa et cette intention de contribuer positivement à cette cause. Donc ce sont voilà des hommes et des femmes qui ont pour rôle d'apporter la conscience, l'éveil, de guider, d'enseigner, de soigner. Alors évidemment, on peut penser à Jésus, on peut penser à Bouddha, on peut penser à Mère Teresa, on peut penser à l'abbé Pierre, on peut penser à un peu toutes ces figures d'épinal de gens qu'on considère comme étant positives, des gens qui ont apporté des changements importants, des gens qu'on pourrait voir peut-être comme des saints ou des héros ou des icônes. Sauf qu'en fait, ça c'est une vision qui est extrêmement, extrêmement restrictive. C'est une vision qui parle beaucoup plus de l'ego que, on va dire, du cœur. C'est une vision qui parle beaucoup plus d'un espèce de mental critique plutôt que d'une acceptation du cœur de la conscience. Tout simplement parce que si on se dit que pour être messager de lumière, il faut être Jésus, personne ne peut l'être. Donc ça, cette vision des choses-là, elle est extrêmement négative, elle est extrêmement destructrice. Parce que ça veut dire que finalement, bah, personne ne peut être messager de lumière, bah, Jésus il a fait son boulot, c'était très bien, c'était super, sauf que finalement c'est plus notre problème. Sauf que je regrette, c'est notre problème. Et chacun d'entre nous est quelque part sur ce chemin. Tout le monde n'est peut-être pas Mère Teresa. Par contre, tout le monde a des gens autour de lui, quand ce serait même la caissière du supermarché, tout le monde a des souffrances, tout le monde est conscient des souffrances des autres et du monde, et nous pouvons avoir une contribution là où nous sommes. Et encore une fois, Mère Teresa disait, on ne peut pas faire de grandes choses dans la vie. Finalement, quand on regarde, on fait peut-être plaisir avec notre ego, mais même la personne la plus riche, la plus puissante sur Terre, a finalement un pouvoir qui n'est que temporel, que restreint dans le temps, d'une façon, on va dire, ridicule par rapport à la durée de vie de la Terre, et surtout un degré de pouvoir et de capacité qui est infime par rapport ne serait-ce qu'aux forces naturelles de la Terre. Donc on se fait plaisir d'une certaine façon, on se raconte des histoires, sauf qu'en réalité, eh bien, chacun d'entre nous ne peut faire que ce qu'il peut, là où il est. Il n'y a pas vraiment de grandes choses que nous pouvons faire. Par contre, nous pouvons faire des choses avec beaucoup d'amour. Et je crois que c'est ça qui compte. Je crois que la notion de messager de lumière, c'est pas du tout une notion d'ego en disant voilà à quel point est-ce que je suis puissant, à quel point j'ai un impact sur le monde et sur la terre. C'est plutôt à quel point est-ce que je donne ou à quel point est-ce que je suis aligné dans une intention d'amour. Et comme je disais, c'est l'intention qui fait vraiment la différence. Et donc ça veut dire que c'est pas juste Bouddha, Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Je crois que vous êtes probablement, très probablement, certainement, un messager de lumière. Alors pourquoi est-ce que les messagers de lumière sont essentiels ici et maintenant? Et je vous expliquerai après pourquoi je pense que vous êtes un messager de lumière, mais parlons maintenant de la nécessité du rôle. Bah, tout simplement parce qu'il y a le feu, voilà, parce que nous sommes dans un monde qui est en crise, et en crise avec un S. Alors, quand depuis des années on nous dit ah oui, mais c'est la crise, mais ça va aller mieux, c'est peut-être qu'à un moment il y a un vrai problème de fond, que ce soit dans nos systèmes financiers, que ce soit dans nos systèmes, dans le marché du travail, que ce soit par rapport à la façon dont nous consommons, notre relation avec la terre, avec l'écologie, que ce soit dans notre façon de trouver notre bonheur et notre satisfaction. Donc il y a un vrai problème de culture, de fonctionnement, de valeur qui amène à un monde qui est en crise perpétuelle. Et on sait très bien quand un organisme est en crise perpétuelle et en souffrance permanente, en désharmonie permanente, eh bien, il y a forcément un moment où on va dans le mur, forcément un moment où on se retrouve en échec et avec des risques de destruction très importants. C'est aussi la fin d'un cycle. Alors ça, je ne veux pas rentrer dans toutes les problématiques de fin de calendrier, Maya ou autre, mais on sent bien qu'on arrive à l'essoufflement au bout d'un modèle. Alors peut-être qu'on peut encore tirer quelques années, que ce soit sur les plans énergétiques, que ce soit sur les plans des crises de la dette, des individus, des États, des entreprises, mais on arrive à la fin d'une logique, à la fin d'une culture. Alors je dirais peut-être la fin d'une civilisation, ça fait peut-être un peu grandiloquent, mais il ne s'agit pas forcément de désastre comme un météorite qui va nous tomber sur la tête, mais plutôt de l'arrivée au bout d'un système, et en plus du rejet de ce système par les gens qui sont les acteurs directs du système. Je parle pas peut-être des 1% de gens qui tiennent un peu les ficelles et qui manipulent tout ça, qui ont tout intérêt à ce que ça dure et à nous convaincre qu'il faut que ça perdure, mais je pense plutôt aux 99% des gens qui se disent mais finalement ça me rend pas heureux, je suis perdant dans ce système, je souffre, je vois que ma situation empire, je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants, pour mon avenir à moi, et donc ça ne peut pas continuer comme ça. Donc quand les participants même du système commencent à être fatigués ou incrédules ou voire désespérés par rapport à ce système, eh bien on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Et puis je crois que nous avons aussi une invitation à passer à autre chose. Quand on regarde toutes les canalisations, tous les messages que nous recevons de part et d'autre, eh bien ce sont des messages d'amour, d'encouragement et aussi de signal de transition, de transformation, de passage, qu'on parle de passage dans la cinquième dimension, qu'on parle d'évolution consciente, qu'on parle de réinvention de notre culture et de nos façons de fonctionner, eh bien, on est invité à passer à autre chose. Donc c'est un moment qui est vraiment important aujourd'hui dans l'histoire de la conscience de la planète. Et leur rôle, bah, c'est tout simplement de passer de ce monde en feu, ce monde qui se cherche, ce monde qui s'ouvre, à un monde qui est ce qu'il est censé être, le monde qui quelque part nous a été donné, qui est un monde qui fonctionne en harmonie. Alors évidemment, c'est pas un monde sans souffrance et sans difficulté. J'ai parlé du rôle de l'obscur. Quand vous regardez dans la nature, ben oui, il y a des animaux qui meurent, des animaux qui se battent, des gens qui sont mangés, enfin des animaux qui sont mangés et d'autres qui mangent. Mais par contre, ça fait partie d'un cycle naturel de la vie, d'un cycle d'évolution et quelque part d'une profonde beauté et d'une profonde harmonie. Et donc c'est rétablir cet équilibre, rétablir cet ordre, et quelque part aider la planète à passer à un niveau de conscience supérieur. Pour moi, les crises que nous vivons en ce moment, c'est un signe important qui est cette phase de transition où on se cherche un peu, on ne sait plus quelles sont nos valeurs, on ne sait plus ce qui compte vraiment, oui, peut-être accumuler de l'argent sans arrêt, ou des biens matériels, mais on voit que ça ne nous satisfait pas. Et donc on est dans une phase de transition. Et dans toute phase de transition, eh bien, il y a des crises, des interrogations, des crises d'identité, des crises de conscience. Et c'est sur la base de ces crises que des ordres nouveaux peuvent apparaître. Si je prends l'exemple de la Révolution française, eh bien, finalement, c'est cet état chaotique de la Révolution, de tous ces changements institutionnels, de législation, de relations entre les différents constituants de la nation, eh bien, qui a amené à un nouvel ordre, à un nouvel état dans lequel eh bien, d'autres choses ont pu germer et naître. Mais ça n'aurait pas pu se produire par continuité. Donc finalement, ces crises, pour moi, ce sont les signes annonciateurs d'un changement, ce sont les signes qui vont les mettre en place. Et de toute façon, le fait qu'une crise est nécessaire pour avoir une transformation, ça c'est quelque chose qui est relativement courant en physique, c'est-à-dire que quand on prend un système qui est dans un certain état d'équilibre, eh bien, avant qu'il puisse passer à un état d'équilibre supérieur, il doit de toute façon passer par la perturbation, par la souffrance, par les difficultés. Donc c'est là-dedans qu'on est. Et bien entendu, on passe d'un état d'équilibre à un autre par cette phase de transition. On pourrait passer dans un état d'équilibre plus bas, un équilibre basé sur l'égoïsme, la violence, le profit à tout prix. Ça pourrait se faire. Mais ça peut aussi aller vers plus d'harmonie, plus de fraternité, plus de solidarité. Et c'est ça le rôle des messagers de lumière, c'est de contribuer à ce que ce chemin d'évolution eh bien, se fasse vers le positif, vers la lumière, vers ce que nous disons que nous recherchons, et pas vers, on va dire, le côté très très négatif, très très de plus en plus matériel conduit par l'ego, auquel on risquerait d'aller sinon avec tous ces éléments négatifs de peur, d'avidité et autres qui sont en ce moment sur Terre. Et avec ce côté de cercle vicieux, c'est-à-dire que si plus on a de négatif et plus le négatif se développe, et plus on a de lumière, plus la lumière se développe. Donc il y a un vrai point d'inflexion, un vrai chemin, une vraie croisée des chemins, et les messagers de lumière ont ce rôle très important de faire pencher la balance du bon côté, en tout cas du côté qui nous paraît le plus désirable pour nous individuellement, collectivement et pour les générations futures. Et donc le rôle des messagers de lumière, c'est de diffuser cette lumière. C'est de rétablir l'équilibre énergétique sur la Terre, de ne pas laisser le côté obscur prendre complètement le dessus et amener la Terre dans ses vibrations très très basses, tout en gardant finalement cet équilibre et cette harmonie entre lumière et obscur. Nous avons le libre arbitre, nous avons la liberté d'utiliser cette énergie comme nous le voulons, cette énergie à laquelle nous sommes connectés, et notre rôle, c'est vraiment ça. Utiliser l'énergie de la source pour le bien collectif. Un peu comme un phare, si vous voulez, qui va prendre cette énergie, cette source d'énergie qui lui vient de sa source et la diffuser, la répandre autour de lui. Je pense que par rapport à ça, il est important d'inviter la lumière dans nos vies. Votre rôle en tant que messager de lumière, c'est accélérer l'énergie positive, c'est co-créer une œuvre de lumière avec Dieu, c'est faire de la Terre finalement ce qu'elle devrait être. C'est ça, alors le but paraît absolument énorme et presque une expression de l'ego, mais c'est pas ça. Ça se fait pas à pas, ça se fait là où on est. Mais de même que votre corps est constitué de millions, de milliards de cellules infinies, mais chaque cellule est importante. Et tout ensemble, elle constitue une œuvre qui dépasse chacune d'entre elles. Un peu comme chaque cathédrale est faite d'une multitude de pierres. Donc c'est vraiment ça, c'est co-créer une œuvre de lumière avec Dieu à notre place, en faisant notre part. Et la réalité, c'est que vos pensées vous changent, elles changent l'univers autour de vous. L'amour, la prière, la méditation, tout ça, ça change l'équilibre global de l'énergie. Et là, c'est un choix qui vous appartient parce que vous avez le libre arbitre. C'est le choix conscient d'inviter la lumière dans votre vie. Et ça, ça passe par ce que vous lisez, par vos relations, par votre environnement, par la façon dont vous prenez soin de vous, par la façon dont vous construisez votre vie. De même que vous avez le choix de choisir ce que vous mangez, et suivant ce que vous mangez, eh bien, vous allez avoir une santé physique différente, eh bien, vous avez le choix de vous nourrir ou pas de lumière. Vous avez le choix entre lire un livre inspirant pour élever votre conscience, ou alors regarder les infos avec des histoires de meurtres, de catastrophes et autres, ou regarder un film abrutissant. Vous avez le choix, et personne ne peut vous juger pour ça. C'est simplement que si vous voulez trouver la plénitude, si vous voulez trouver l'accomplissement, eh bien ça passe par le fait d'inviter la lumière dans votre vie, et ça se fait par le choix conscient et par l'attention que vous prenez à vos actions, à vos comportements pour inviter cette lumière en vous. Et donc ça veut dire prendre soin de vous et de vos émotions, ça veut dire prendre soin de ce qui passe en vous, de comment est-ce que vous travaillez l'amour, la gratitude, le pardon, la gentillesse, l'acceptation, la générosité, la tolérance, la compréhension. Parce que finalement ce sont ces valeurs-là, ça commence en vous. Je connaissais quelqu'un qui m'avait dit, qui quelque part, pour la moindre petite embrouille, avait toujours le mot à la bouche de procès, de vengeance, de revanche. En faisant ça, eh bien, elle se faisait du mal. Elle se faisait souffrir elle-même parce qu'elle ne pouvait pas lâcher de ses petites contrariétés. Elle ne pouvait pas cultiver en elle l'amour, la gratitude, le pardon. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher sur les pieds et dire oui à tout le monde. Ça veut dire que il est important de fonctionner de cet endroit-là. Parce que c'est à partir de nous que tout commence, que tout se passe. Et l'important, c'est que vous démultipliez cet effet dès que vous commencez à toucher les autres, c'est-à-dire dès que vous commencez à enseigner, à soigner, à accompagner, à guider. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, que vous ne faites jamais d'erreur, ça ne veut pas dire que vous êtes au-dessus des autres, mais ça veut dire que vous avez cette responsabilité, vous avez le choix, la possibilité de dire oui, j'invite la lumière. Oui, je veux vivre en alignement avec ma mission, mon aspiration de messager de lumière. Il est aussi important de transcender l'obscur, parce que certes, inviter la lumière c'est bien, mais le problème c'est que nous sommes entourés par des énergies obscures, par des difficultés, par des souffrances, par des phases dépressives, par des moments où on a l'impression que tout s'effondre, où rien ne va, et donc il est important de transcender cette énergie obscure. Et pour cela, vous devez être présent, vous devez être conscient, et surtout avoir cette intention de service. Alors pour ça, vous devez bien entendu identifier l'énergie obscure, tout ce qui peut passer par de la fatigue, de l'inquiétude, du stress, du mal de tête, de dos, des dépressions, l'envie de s'isoler, la victimisation, oh là là, il m'arrive toujours plus des problèmes, etc., etc. Donc déjà, reconnaître que l'énergie obscure est là. Et pas vous dire qu'il y a un problème avec vous, mais dire, ok, il y a une forme d'énergie, elle est négative, et il faut que je traite avec. Ensuite, il est important de la reconnaître, de l'absorber, de la digérer, de la faire circuler, de la transcender d'une certaine façon. De dire, voilà, ok, il y a de l'énergie obscure, mais à ce moment-là, je vais l'observer telle qu'elle est, et je vais peut-être envoyer de l'amour dessus. À quel point, si on se sent déprimé, à quel point est-ce qu'on peut aimer notre dépression? Ou la comprendre? Ne pas la juger? L'avoir comme un enseignant, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller et pas aller chercher de l'aide si on en a besoin. Mais comment est-ce qu'on peut voir ça sur le plan d'une expérience spirituelle? Comment est-ce qu'on peut transformer cet élément obscur en un élément qui va venir nourrir notre spiritualité et notre lumière? Et puis finalement, injecter de la lumière, c'est regarder l'endroit où on a ces souffrances, où on a ces difficultés, et consciemment, travailler la lumière autour de ça. Il y a une phrase qui dit que il suffit d'une petite chandelle pour dissiper des milliers d'années d'obscurité. Bien c'est ça. Si on arrive à être conscient de cette énergie obscure, si on arrive à l'intégrer, à l'absorber, à la transcender et à injecter de la lumière là où les choses sont difficiles, eh bien ça nous permet de passer et de fonctionner à des états de conscience différents. Et là-dessus, je vous incite à faire attention parce que l'énergie obscure, c'est un aimant qui attire encore plus d'énergie obscure, et donc on peut tomber dans des addictions, dans des problèmes d'alcool, de drogue, de nourriture, on peut avoir de mauvaises relations, on peut s'attirer beaucoup d'ennuis sur le plan matériel, et c'est d'autant plus vrai si vous êtes sensible. Donc il est important d'être vraiment conscient de cette obscurité dès le début, et de prendre les choses à la racine avant qu'elles ne se développent et qu'elles ne deviennent trop négatives. Et moi je crois que c'est ça notre chance, notre espoir. Si on veut que le monde effectivement puisse évoluer et ne s'embrasse pas, mais aille plutôt vers la lumière, vers l'harmonie, je crois qu'il est important que vous compreniez votre nature véritable. Et là encore, sans ego. Là, je suis messager de lumière, tout de suite on a l'impression d'avoir les anges qui chantent et autres. Mais pour moi, c'est pas plus noble ou pas noble que banquier, balayeur, boucher, écrivain, comptable ou autre. Voilà, c'est quelque chose qu'on est, quelque chose qu'on fait, mais il est important de se regarder en face et de comprendre sa nature véritable. Je crois qu'il y a nécessité aussi pour chacun de faire son travail pour diffuser de la lumière et transcender l'obscur, aider aussi les autres messagers de lumière à reconnaître qui ils sont. Il y a cette notion, je crois, de communauté, de fraternité, et puis les aider à se souvenir de leur mission. Et enfin, travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, ça ne veut pas forcément dire se tenir par la main et jamais se quitter. C'est des Saint-Exupéry qui disaient que finalement, s'aimer, c'est pas se regarder dans les yeux, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Ben, je crois que c'est ça. Et je fais confiance à l'énergie collective. Parce que souvent, quand on regarde tous les mouvements un peu, que ce soit religieux, d'élévation de conscience ou autre, je crois que souvent il y a cette volonté de prendre le contrôle, de dire, ben voilà, finalement, seule ma vérité est bonne, et, comme on dit en anglais, my way or the highway, c'est-à-dire soit on fait à ma façon, soit à ce moment-là vous partez. Mais ça, je crois que c'est finalement ne pas avoir vraiment compris l'intelligence de la source. Quand vous avez un arbre au milieu de la forêt, il n'est pas là à dire, bah écoutez, c'est moi qui vais organiser la forêt, parce que seule la vérité de l'arbre est bonne. Non, l'arbre peut aimer la forêt et en même temps considérer qu'il fait son travail pour la forêt, mais que l'écureuil va faire son travail pour la forêt, de même que les autres animaux, de même que les papillons, les oiseaux, les abeilles. Il va pas essayer de les contrôler. Par contre, il y a cet alignement de la nature avec le plan global de développement de la Terre et de l'univers qui dit, bah oui, je fais mon travail d'arbre là où je suis. Et j'ai confiance dans cette intelligence collective qui fait que tous ensemble, nous allons créer un écosystème en équilibre. On n'a pas besoin d'avoir une notion de régulation centrale. C'est un peu comme si vous voulez, des fourmis. Alors effectivement, il y a la reine, certes, mais en même temps, les fourmis ont cette intelligence collective, cette capacité extraordinaire à s'auto-organiser. Quand des fourmis vont aller, par exemple, prendre des morceaux de sucre, elles vont pas aller voir la reine chacune en disant voilà qu'est-ce que je fais. Non, d'un seul coup, tac tac, elles parlent les unes avec les autres, elles communiquent par des différents moyens, des phéromones, des touchers d'antenne, etc. Et d'un seul coup, à partir du chaos, vous avez une chaîne de fourmis qui fonctionne de façon quasi militaire pour aller chercher le sucre là où il est. Il n'y a pas de grand chef qui les fouette en disant ben voilà, maintenant c'est comme ça que tu dois fonctionner. Non, elles se sont auto-organisées. Et si ça se trouve, chaque fourmi n'est consciente que du petit travail qu'elle fait, où elle va prendre tel grain de sucre et elle va le passer à sa voisine ou elle va l'amener à tel endroit. Mais tout ensemble, elles font une organisation collective qui fonctionne extrêmement bien et qui obéit à un schéma qui dépasse chacune d'entre elles. Et c'est ça que j'appelle travailler ensemble. C'est que chacun d'entre nous, à sa place, même sans forcément être conscient de ce que font les autres, à partir du moment où nous sommes alignés, à partir du moment où nous sommes connectés à la source, eh bien, nous sommes à notre juste place. De même que l'abeille ne parle pas avec l'arbre, mais en même temps, elle joue un rôle qui est indispensable au collectif. Donc, et c'est ça ce point, et je crois que c'est une évolution de conscience importante que nous devons faire et que les différents systèmes religieux ou spirituels doivent faire, c'est de reconnaître qu'à partir du moment où nous sommes alignés avec la source, avec la conscience quelque part de l'univers, eh bien, il n'y a pas besoin d'imposer, il n'y a pas besoin de contrôle. Parce que tous les éléments peuvent fonctionner ensemble, comme les parties d'une horloge, ou comme chaque fourmi individuellement, chaque abeille. Travailler ensemble dans la même intelligence, au sens de l'intelligence collective de la source. Donc c'est ça ce point qui me semble important. Et ça pour moi c'est notre chance, notre espoir, c'est que finalement chacun fasse sa part. Sa part de prise de conscience, sa part de contribution, sa part de travail ensemble pour contribuer à l'évolution de la Terre. En attendant, peser sur ce petit point de levier que nous avons en ce moment pour pouvoir amener la Terre dans... Ben voilà, dans les espaces de conscience auxquels nous aspirons, de plus de paix, d'harmonie, de beauté. Et ça, pour moi, c'est vraiment notre chance et notre espoir. Alors maintenant, je vais aborder une question qui est importante, qui est fondamentale, que vous posez certainement, qui est, est-ce que vous êtes un messager de lumière? Alors, il y a des convictions habituelles dont j'ai parlé qui proviennent de l'ego, qui dit que voilà, un messager de lumière, c'est forcément un saint, une personne célèbre, quelqu'un qui n'a aucun défaut, quelqu'un qui ne vit que dans le positif, etc., etc. Sauf qu'en fait, cette image n'est juste pas réelle. C'est une image d'Épinal. C'est parfois une image qui est diffusée par un certain nombre d'enseignants spirituels qui ont tendance à vouloir gommer la partie humaine d'eux-mêmes. Et en faisant ça, alors ça part peut-être d'une bonne intention, parce que leur idée c'est de montrer une aspiration, c'est de montrer une direction dans laquelle aller pour les gens qui les suivent. Sauf que pour moi, il y a quelque part un mensonge derrière. Il y a une illusion. Et je crois qu'il est important de ne pas travestir la réalité. Je vais vous donner un exemple qui sort d'une interview que j'ai écouté de John Gray. Donc vous connaissez peut-être John Gray comme l'auteur de Des hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Sauf qu'en fait, avant d'être l'expert en relations qu'il est, eh bien, il a été l'assistant du Maharishi, donc l'inventeur de la méditation transcendantale et l'un des grands diffuseurs de la méditation et de la philosophie orientale en Occident. et qui racontait qu'en fait, quand il était sur scène, le Maharishi était vraiment l'image du maître, d'un calme olympien, d'une sagesse profonde, donc vraiment quelqu'un de remarquable. Mais par contre, dès qu'il descendait de scène, dès qu'il avait fini ses conférences, eh bien, il était finalement un être pas si bien que ça, d'une certaine façon. Il était visiblement extrêmement agressif, stressé, souvent énervé, souvent très très exigeant et parfois même injuste avec son équipe. Et John Gray disait, ben oui, j'ai compris que finalement, voilà, il y avait cette image qu'il donnait, et il y avait la réalité de qui il était dans la vie, et les deux finalement ne se parlaient pas forcément. Donc tout ça pour dire que ne vous attachez pas à des images de pseudo-perfection, simplement parce que dans le monde réel, elles n'existent pas. Et même si vous avez l'impression que quelqu'un que vous admirez a toutes les images et toutes les qualités que vous pouvez en attendre, eh bien c'est aussi un être humain. Et je crois que c'est important de le reconnaître. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que John Gray, expert en relations, a priori, je crois, a divorcé 3 ou 4 fois et a du mal, évidemment, à s'appliquer ses propres conseils à lui-même. Donc tout ça pour dire que cette image qui est fournie par l'ego quelque part, cette image de standard inaccessible, irréel, eh bien, ne fait tout simplement pas partie du monde tel qu'il est. C'est juste un mensonge. Parce qu'en réalité, chacun joue son rôle, un peu comme les animaux ou les différents constituants d'une forêt, mais chacun d'entre nous est humain. Chacun d'entre nous est humain et imparfait, peut avoir cette aspiration de faire mieux. Mais par contre, on n'apprend que par des erreurs, on apprend que par quelque part nos défauts. C'est comme ça qu'on apprend. C'est parce qu'on tombe, qu'on se relève et qu'on est plus fort et qu'on avance. Si d'un seul coup il fallait éliminer toutes les personnes qui ont des défauts, je crois qu'il y aurait plus grand monde sur cette terre. C'est Saint-Exupéry qui dit qu'il ne faut pas éliminer quelque part les mauvais artistes, je crois qu'il peut dire les mauvais potiers ou autres, parce que c'est sur ce terreau-là que naissent les grands potiers. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont nuls et que d'autres qui sont très bons. Ça veut dire que c'est en permettant aux gens de faire des erreurs, de commencer leur chemin, qu'ils peuvent s'améliorer, qu'ils peuvent devenir meilleurs et qu'ils peuvent avoir la maîtrise de ce qu'ils font. C'est un peu comme si on disait d'un enfant, ben voilà, ben t'arrives pas à marcher, t'es qu'à 4 pattes, donc en gros c'est fini pour toi et tu seras jamais un adulte respectable parce que tu vas continuer à marcher à 4 pattes. Ça n'a juste aucun sens. Ça nie la capacité extraordinaire d'évolution de l'être humain, sa capacité et aussi le but de notre expérience terrestre. Donc si vous sentez imparfait, si vous sentez parfois nul, pas au niveau, si vous sentez un pécheur, pour reprendre certaines expressions, ou si vous sentez indigne de je ne sais quoi, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes humain, et je dirais même plus, vous êtes aimé comme ça. La source vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime tel que vous êtes. D'un amour inconditionnel. Donc, vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Parce que c'est dans nos imperfections que se révèle notre nature véritable, qui nous sommes vraiment. Et c'est dans nos imperfections, ou ce que nous voyons comme des imperfections, que se révèle la nature extraordinaire de la source. Parce que finalement, si tout était parfait, quelque part tout serait statique, il n'y aurait rien à dire, il n'y aurait rien à faire, il n'y aurait pas à vivre, il n'y aurait pas à évoluer. Mais c'est uniquement parce qu'il y a des décalages, il y a des écarts, parce qu'il y a des choses qu'on apprend, des mouvements de vie, des choses qui changent. Eh bien, c'est uniquement pour ça que finalement l'univers a un intérêt, si je peux dire. Et c'est pour ça que la source est amour inconditionnel. Et c'est pour ça qu'elle vous aime tel que vous êtes, quoi que vous ayez fait, indépendamment de vos intentions ou autres, parce que vous faites partie d'elle. Parce que vous faites intégralement partie d'elle, et vous faites partie de cette expérience. Et quelque part, sans vous, sans la personne que vous êtes, là maintenant, pas l'image idéalisée qu'on peut avoir, ou la personne que vous pensez que vous devriez être, ou que vous aimeriez être, mais qui vous êtes, là maintenant, ici tout de suite, sans vous, eh bien, l'univers serait différent, l'aventure sur Terre serait différente. Et c'est ça qui a un prix extraordinaire aux yeux de la source, et c'est ça qui fait que vous êtes aimé de façon inconditionnelle pour qui vous êtes. Et donc, si vous êtes aimé par la source, on va dire, par cet absolu, par cette source d'énergie et d'amour, finalement, rien ne vous empêche d'être un messager de lumière. Mais là-dessus, je comprends que il faut des preuves, il faut des tests. Alors, je vais vous donner un test. Le test absolu qui va vous permettre de savoir si vous êtes oui ou non un messager de lumière, aussi sûrement que 2 et 2 font 4. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test? Eh bien, c'est simple. Si vous vous demandez si vous êtes un messager de lumière, et si la réponse est importante pour vous, c'est-à-dire probablement si vous écoutez cette conférence, d'accord? Si c'est votre cas, alors, eh bien, vous êtes un messager de lumière. Et ça, je vous le garantis. Vous êtes un messager de lumière. Et je le démontre. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres s'en moquent. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit du messager de lumière, c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'évolution de la Terre. C'est quelqu'un qui se préoccupe de la conscience globale, de l'évolution de Gaïa. Les autres s'en moquent, ils sont plutôt dans le fonctionnement. Or, se poser la question de savoir si on est un messager de lumière, avec les implications, avec les joies, avec le sens que ça donne à nos vies, ça veut dire que nous nous préoccupons pour l'évolution de Gaïa et pour le rôle que nous avons à y jouer. Donc, par définition, nous sommes un messager de lumière. Si vous posez ces questions, si vous posez la question, si vous demandez est-ce que je suis un messager de lumière, là là, c'est vraiment important, j'ai besoin de savoir, alors vous êtes un messager de lumière. Et là-dessus, je vous rassure, Paulo Coelho disait, tout guerrier de la lumière a douté d'être un guerrier de la lumière. Donc, vous posez la question, vous doutez, vous vous interrogez, pas de problème, c'est la preuve que vous faites partie des messagers de lumière. Encore une fois, parce que les autres, pour les autres, ceux qui ne sont pas messagers de lumière, ce n'est pas du tout un problème. On peut leur aurait dire oui, vous en êtes un non, quelque part, pardon, quelque part ils s'en fichent, ça ne va pas avoir d'incidence sur leur vie, sur la façon dont ils se voient, sur la façon dont ils pensent. Or, pour vous, c'est un sujet qui est important pour la seule raison que vous écoutez, par exemple, cette conférence. Donc, si vous écoutez cette conférence, vous êtes un messager de lumière. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que vous ne vous souvenez pas? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voilà, vous dites, vous n'arrivez pas sur Terre en vous disant, bah oui, voilà, je suis un messager de lumière, voilà mon plan d'action, voilà ce que je dois faire. Est-ce que ce ne serait pas plus simple comme ça? Alors je vous rassure, hein, il y a notamment dans toute la tradition tibétaine avec le Dalai Lama et autres, il y a les réincarnations et donc ils sont capables de savoir. Où sont les réincarnations des, on va dire des dignitaires ou des gens qui sont élevés dans l'ordre, dans la hiérarchie religieuse. Et donc, il y a des gens qui reçoivent des lettres en disant, voilà, vous êtes la réincarnation de un tel Rinpoché, merci de vous présenter à tel moment pour qu'on puisse vous expliquer, etc. Et bien finalement, c'est pas forcément plus simple d'avoir cette lettre qui vous dit ce que vous devez faire. Parce que en faisant ça, d'une certaine façon, vous êtes privé de votre libre arbitre. Alors, c'est peut-être pas tellement gênant, mais en même temps, il y a une vraie richesse dans le fait de pouvoir suivre son propre chemin et de faire ses propres choix. Et donc, pourquoi est-ce que vous ne vous souvenez pas? En fait, il y a une raison qui est très simple, et pour ça, il faut que vous compreniez que vous êtes une âme évoluée. Vous avez vécu probablement plusieurs incarnations, peut-être que vous étiez sorti de votre cycle d'incarnation sur Terre, mais que vous êtes quand même revenu pour contribuer justement à cette évolution de la conscience. Et donc vous avez de grandes connaissances. Vous avez une fréquence vibratoire élevée, vous avez au niveau de votre moi supérieur, de votre moi spirituel, vous avez beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que quand vous mettez trop de lumière, eh bien dans ce monde matériel, ça crée une réaction de l'obscur. C'est un monde matériel, donc si vous faites une action, vous avez une réaction. Quand vous avez une navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère, eh bien d'un seul coup, ça se met à chauffer avec une énergie énorme. C'est la réaction de l'entrée de cette navette dans l'atmosphère. Donc si vous faites rentrer trop de lumière d'un coup, eh bien vous avez une réaction énorme du côté obscur immédiatement. Ça m'arrive et ça arrive à d'autres de mes amis qui enseignent la spiritualité. Il arrive quand on fait certains événements ou certains cours que bizarrement l'informatique fonctionne plus, que on ait des problèmes techniques à répétition, alors que avant tout allait bien. Eh bien, ça vient simplement du fait que comme on essaye de mettre de la lumière, eh bien, il y a aussi une réaction du côté obscur, une réaction négative qui a tendance à essayer de s'attaquer à tout ça. Donc, si vous rentrez avec trop de lumière dans l'atmosphère, dans la conscience globale, eh bien, ça crée une réaction négative. Donc, vous arrivez en ayant oublié votre nature véritable. Par contre, vous avez un instinct pour la retrouver, ce que j'appelle le navigateur. Donc, finalement, c'est assez malin, c'est assez bien fait quand on y pense, parce que plutôt que de rentrer une grosse navette spatiale dans l'atmosphère, eh bien, on envoie une petite sonde quasiment indétectable, et cette sonde, elle va télécharger l'information nécessaire. Et donc, c'est ça qui se passe quand vous vous réveillez, quand vous vous éveillez, eh bien, vous réalisez qui vous êtes et vous téléchargez. C'est vraiment ça, vous recevez de l'information de là-haut sur ce que vous savez déjà. Et donc, il ne s'agit pas d'apprendre, mais il s'agit de vous souvenir, il s'agit de vous réveiller. Donc, quand vous regardez des conférences comme ça vous apprend peut-être des choses, mais en même temps, l'intérêt surtout, c'est que ça va vous aider à vous réveiller et à accéder à tout ce savoir que vous connaissez, à toute cette richesse que vous avez accumulée au cours de vos existences, au cours de vos multiples vies. Et donc, il ne s'agit pas pour vous tant d'apprendre que de vous réveiller, que de vous souvenir. C'est un peu comme si, avec ce genre de conférence, c'est un peu comme si vous lancez un verre d'eau à la tête en disant « Allez, debout, réveille-toi, je ne vais pas vous apprendre tout ce que vous savez déjà, je vous donne des pistes, des moyens de les retrouver, je vous aide à dire, voilà, ouvre les yeux, regarde, ta lumière, elle est là-bas, et fais le chemin. » Donc c'est ça qui est important. Vous ne vous souvenez pas parce que trop d'énergie lumineuse, eh bien ça fait une opposition du côté obscur. Mais quand vous avez fait ce pas, quand vous avez fait cet éveil, eh bien là vous pouvez télécharger les choses et vous pouvez vous souvenir. Alors bien évidemment, c'est un rôle qui est difficile, hein, je ne vous le cache pas, parce que y a des peines, des souffrances, c'est un peu comme si on montait une très haute montagne avec un sac à dos pas mal chargé sur le dos. Donc je ne sais pas si ces situations vous semblent familières, mais ce sentiment de oh là là, je veux rentrer à la maison. C'est un peu cette idée, oh là là, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je me fais chier? Ou alors, oh là là, mais qu'est-ce que je souffre? Pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi est-ce que je me retrouve l'impression d'étouffer dans cette vie matérielle alors que finalement j'aspire aux étoiles, aux activités artistiques, à la transcendance? Quand est-ce que je peux rentrer chez moi? Je veux juste rentrer chez moi. À quoi bon vivre? À quoi ça sert finalement? On a des succès, des échecs. Oui, certes, voilà, la nature humaine, on la retrouve un peu partout. À quoi bon? À quoi bon? Je me sens perdu, je me sens isolé, je me sens seul, je me sens incompris, je me sens différent. Quand je parle de choses, les gens me regardent bizarrement. Quand les gens parlent entre eux, j'ai du mal à m'intéresser à leurs propos parce que ça me paraît tellement en dehors des choses qui comptent vraiment. Je me sens en décalage. Je me sens en décalage avec le monde tel qu'il est et je me demande vraiment quoi ça sert. Parfois, j'ai l'impression que le monde serait plus simple si j'étais pas là. J'ai l'impression d'être un poids ou un objet un peu encombrant, un peu le vase offert par belle-maman, qu'on sait pas trop. Il est là, donc faut bien le garder, mais enfin bon, on peut pas le mettre parce qu'il jure avec le reste de la maison. Voilà, il y a un peu ce sentiment-là. Un manque de sens, du vide. Finalement, à quoi ça sert? C'est bien beau, je vais avoir tel travail ou telle réussite, tel accomplissement, mais et alors? Et alors, est-ce que c'est vraiment ça que je recherche? Donne l'impression de tourner comme un hamster dans sa cage. Alors oui, on peut faire des tours plus rapides de roue, mais ce qu'on voudrait, c'est sortir de la cage. Est-ce que ça a vraiment du sens de faire des tours de roue plus rapides ou mieux ou sur une jambe ou autre, alors que quelque part, la réalité n'est pas là? Et ça mène à des vies qui sont difficiles, qui sont lourdes, qui peuvent être chargées de souffrance, d'obscurité. On peut se sentir perdu. Ça peut amener à se faire du mal. Parce que peut-être que parfois le mal physique, par exemple, ça peut amener à oublier pour un temps la souffrance. Ça peut amener à des addictions pour oublier. Soit l'alcool, la nourriture, peut-être le sexe à outrance, parfois jusqu'au suicide. Il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça, parce que quand on a ce genre de comportement, et on s'en veut. Et surtout, on se dit, ah là là, j'ai des aspirations spirituelles, mais comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux me faire du mal comme ça? Et donc, on s'en veut encore et on rentre dans des cercles vicieux. Ne pas savoir quoi faire de sa vie, je suis un peu comme un... Voilà, je me laisse porter par le courant, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je sens cet appel, mais qu'est-ce que ça veut me dire? Et surtout, comment je peux... Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Des préoccupations pour la marche du monde, des inquiétudes, donc voilà, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver au monde demain? Et la planète, et l'écologie, et nos enfants, et... Est-ce que tout ça va exploser, partir n'importe comment? Est-ce qu'on va se retrouver avec la Troisième Guerre mondiale ou alors une crise très difficile, sans fin, avec un chômage qui n'arrête pas d'augmenter et des difficultés financières pour tout le monde? Ou est-ce qu'on va aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus lumineux? On a l'impression peut-être d'avoir un pied ici et un pied là-haut, une espèce de grand écart, on a l'impression de ne pas être totalement incarné, ou quand on doit vraiment s'incarner, on se sent lourd, puis on a envie de repartir là-haut, mais quand on est là-haut, ça devient compliqué de faire ses impôts, d'avoir un travail stable, ou d'avoir des relations sociales ou amoureuses. Et puis il y a cette volonté d'aider, de guider, qui parfois est peut-être brûlante. On se dit, voilà, j'aimerais faire quelque chose. Je ne peux pas être juste là, cette espèce de poupée de chair qui se contente de respirer, de manger. Il doit y avoir autre chose. Mais je ne sais pas comment faire. Et puis il y a ce sentiment peut-être de grande responsabilité en disant, oui, il y a quelque chose que je suis là pour faire. Je sais qu'il y a autre chose que la vie que je mène en ce moment. Mais comment je fais? Et donc ça amène beaucoup de souffrance. C'est un rôle qui est difficile, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est un rôle qui est essentiel dans la transformation du monde, le fait d'être messager de lumière. Ce sont de grandes capacités émotionnelles et psychiques. C'est un impact véritable sur les autres, pour les guérir, les aider, les guider. Au final, vous êtes le sourire de l'univers. Vous êtes un cadeau que vous faites au monde. Parfois, vous pouvez vous sentir mal à l'aise en dehors, mais soyez-en sûr, vous êtes un cadeau que vous faites au monde. Alors, quelle est la solution à toutes ces souffrances et toutes ces difficultés? Bien, déjà, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes là pour quelque chose, même si vous avez l'impression que vous n'accomplissez pas votre mission. Il y a quelque chose que vous êtes là pour faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez une mission de transformation, d'accompagnement du monde. Vous êtes un passeur. Vous êtes une cellule de transformation, un imago. Quand vous voyez comment fonctionne le papillon, quand la chenille devient papillon dans son cocon, eh bien, toute la chenille est réorganisée. Évidemment, on sait pas le même animal quelque part. Par contre, il y a des cellules qui quelque part créent ou facilitent ou sont les fondations du papillon. Ce sont des cellules qui font le passage entre la chenille et le papillon. Et bien ces cellules, c'est ce qu'on appelle des imagos. Et bien c'est ça, c'est ce que vous êtes. Vous êtes un imago. Vous êtes une cellule de transformation, quelque chose qui aide au passage. Le fait d'être messager de lumière, ça vous permet de sentir l'endroit où va le monde. Ça vous permet de sentir les grands courants de la force, un peu comme Yoda, vous savez, je sens une perturbation dans la force, et bien c'est exactement ça. Et donc de prendre à votre niveau les bonnes décisions, les bonnes actions pour aller vers plus de lumière. Et en faisant ça, vous faites un peu comme un pivot, vous permettez à la conscience de passer d'un côté à l'autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc si vous voulez transcender votre souffrance, donner un sens, l'alléger, la faire disparaître. Finalement, la seule chose, c'est de faire le travail que vous êtes destiné à faire, celui de phare de lumière, c'est de commencer votre chemin. C'est un peu comme quand vous avez une espèce de passion en vous, vous avez une passion amoureuse ou l'excitation d'un projet, quelque part ça devient cette espèce de sensation brûlante, il faut le faire, il faut que ça sorte. Et bien là, c'est la même chose. Alors, évidemment, vous êtes englouti sous tous les conditionnements de la culture, un peu comme un fromage sous une cloche, d'accord, il faut soulever la cloche, il faut sortir. comme le hamster dans sa roue à qui on dit de tourner, 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 alors qu'en fait, la liberté est ailleurs. Donc il faudrait sortir. Mais on me dit que c'est pas possible, que c'est difficile, ou on me dit que c'est complètement idiot ou ridicule, et qu'on ferait mieux d'aller travailler et de regarder Secret Story. Mais il y a quelque chose de plus profond, et vous le savez. Il y a un travail que vous êtes destiné à faire. Et vous avez cet instinct, vous avez ce navigateur qui vous tire, qui vous appelle, qui vous parle, qui vous dit, mais allez, au boulot, il faut y aller, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On a du boulot à faire, et est-ce qu'on l'a commencé? Est-ce qu'on a commencé à avancer sur le chemin? Et c'est de là que vient cette souffrance. C'est de là que vient cette souffrance. C'est de là que vient cette peine, c'est de là que viennent ces interrogations, ces doutes. Donc commencez votre chemin, faites le travail que vous êtes destiné à faire. Et surtout, soyez sûr, vous n'êtes pas seul. Vous avez de multiples compagnons de route, vous avez des gens qui sont sur ce même chemin, avec les mêmes doutes, avec les mêmes interrogations, avec les mêmes joies aussi, avec les mêmes espoirs, les mêmes aspirations. Et bien entendu, vous êtes aussi accompagné sur les plans spirituels, parce que vous n'êtes pas seul pour faire votre mission. Vous êtes accompagné. Mais personne ne peut prendre la décision à votre place. Personne ne peut décider à votre place de faire ce pourquoi vous êtes venu et d'accomplir votre mission de messager de lumière. J'aimerais maintenant vous parler de vos dons et talents, tout ce que vous avez reçu afin de pouvoir accomplir votre mission. Mais avant ça, je vous invite à prendre une petite pause et je vous retrouve tout de suite après pour la suite de cette conférence. À tout de suite.